Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est le but le plus important de ma carrière?
Ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse. Hein.
Pas favori, on est même les tocards de la finale. On n'est même pas outsider, on est tocards.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit, l'after l'émission qui dit tout au secret du monde du football pense tout bas avec Florent Gautreau ce soir qui est là. Salut Florent.
Salut à tous et salut aux amis du bémol.
Et avec Lionel Charbonnier, salut Lionel.
Bonsoir à tous.
Alors précision, ce n'est pas l'émission des courses, hein, c'est bien l'after.
Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais.
C'est vrai que j'ai pas préparé une quintette demain, Lionel.
Moi non plus. Je te rassure.
Bon très bien, on va parler de foot.
Mais c'est en gain quand même, je le dis pour les amateurs.
Ah bon. Tu sais toujours où est le quintet du lendemain?
Où sont les réunions? Il se passe juste un petit mot sur les courses. Il y a un truc qui est le plus en rapport avec un stade de foot en ce moment. C'est les courses à Cheltenham, course d'obstacles en Angleterre. 60 000 spectateurs, des tribunes pleines, une sorte de bruit incroyable et de folie furieuse dans les tribunes avec des shows d'obstacles que connaît Lionel. Et ça, Cheltenham, c'est un petit peu la mecque
de l'obstacle. C'est magnifique, c'est une ambiance, c'est incroyable. T'as la musique partout, des fanfares, des trucs. C'est 60 000 personnes pendant plus d'une semaine. Hein.
Très bien, mais tout le monde s'en fout.
Parce qu'il faut vraiment voir
en fait,
ça.
En fait, si un fan de foot veut une fois aller aux courses en Angleterre, puisque c'est le pays honnêtement rêvé pour ça, qui mixe foot et
course. Oui, continue en plus.
Non mais je le dis, allez à Cheltenham.
C'est beau, c'est vrai, il faut le voir.
Il y a deux raisons. C'est toujours la semaine de mon anniversaire.
Très bien. Bon, il est 22h59. Évidemment, on va analyser la qualification de Nice. Supporters du gym, on vous attend au 32-16. Nice en quart de finale de Coupe d'Europe. Hein. C'est quand même pas rien dans l'histoire d'un club d'être en quart de finale de Coupe d'Europe, même si c'est la plus petite des Coupes d'Europe.
C'est important d'y être.
Exactement.
Tout le monde ne fait pas la preuve.
On a à peu près le plateau, là, d'ailleurs, des adversaires potentiels de Nice. On va en parler également. Et puis, le reste de l'actu du jour avec la liste de Didier Deschamps, entre autres, Gianni Infantino, réélu par acclamation. Ça, c'est franchement... Réélu par acclamation. On y reviendra tout à l'heure. Le 32 est ouvert pour tous ces sujets. On vous attend, évidemment. Donc, Nice se qualifie. Je vous donne les adversaires potentiels, puisque si vous êtes supporter niçois, vous allez attendre le tirage au sort de demain avec intérêt. Le club belge de la Gantoise. Vous avez pour Nice, ça, quand même, non ? Lech Poznan, les Polonais. La Fiorentina, quand même, gros club.
La Fio, West Ham, qu'il faut.
Bâle qui se qualifie au Turbu. Alkmaar, club hollandais. Anderlecht, qui a éliminé Villarreal, quand même, ce soir, avec notamment Slimani. Et West Ham. Et de vous dire que West Ham et la Fiorentina sont peut-être les deux grosses équipes à éviter, quoi.
Je pense. Anderlecht aussi, c'est pas facile. Hein.
Ouais, c'est en dessous, quand même, non ?
Ah, c'est en dessous.
Bon. Voilà pour
un tirage un peu Jackie et Michel, hein, avec Lech Poznan, Fio et Bâle.
Mais, ah, j'étais pas là-dedans.
je crois qu'il a des soucis. Il passe des trucs. Solitude.
C'est depuis qu'il a lu la revue de l'After.
Il a passé sa semaine tout seul à Paris, donc
avec la revue de l'After.
D'ailleurs, que j'ai cherché tout à l'heure dans une boutique.
Il y en a plus.
Alors, soit c'est bon signe, soit c'est mauvais signe.
Il faut aller sur afterfoot.media.
D'accord.
Là, il y a toujours du
show. Je l'ai pas trouvé.
Afterfoot.media. En deux jours, vous l'avez à la maison. Et bien alors, le plateau de l'Europa League, Juventus, Manchester United, Feyenoord, Séville, Leverkusen, la Roma, le club belge de la Saint-Gilloise, et soit Arsenal, soit le Sporting, puisqu'on est en prolongation. Aurélien Tirsin suit la prolongation, Aurélien.
Oui, match très, très, très équilibré. On peut difficilement faire mieux. Un partout après la 92e minute de jeu. Granit Xhaka avait marqué le premier but pour Arsenal dans la première période. Et puis égalisation exceptionnelle de Pedro Gonçalves. Frappe, ouais, Lionel, de 40 mètres. Récupération dans les pieds de Jorginho. Et puis Aaron Ramsdale, il est très grand, mais il a vraiment mis sa frappe de 40 mètres pile sous la barre, Pedro Gonçalves. Et c'est pas immérité pour le Sporting, qui a eu beaucoup, beaucoup d'occasions dans cette partie.
Ouais, ils s'en sortent bien, plutôt, les Anglais. Hein.
Ouais, plutôt très bien. Et à noter la blessure de William Saliba en tout début de match, qui avait été appelé par Didier Deschamps. Donc 92e minute de jeu, un partout.
Merci, à tout à l'heure. Tu nous appelles dès qu'il se passe un truc. Les gars, avant d'accueillir Quentin qui est supporter niçois, on a une belle soirée niçoise. On n'a pas trop tremblé, même à 2-1. Bon, il y avait un but encore d'avance.
Ah, et moi ils...
Pas tremblé, toi.
À 2-1, ils ont commencé à baisser de rythme. Ils étaient plutôt dans la gestion. Donc, et ça me... J'aimais pas trop. Je préfère qu'en Nice, quand tu fais rentrer 4 joueurs frais, jouer sur tes forces, plutôt que après, tu fais rentrer 4 joueurs. Tu te dis, ils vont jouer sur la fraîcheur. Mais non, et en fin de compte, ça les désorganisait plutôt qu'autre chose. Je me suis dit, attention à 2-1, si tu vas soit sur le 2-2 et il venait de faire rentrer son cinquième remplaçant, t'es pas à l'abri d'une blessure, ça peut mal tourner, on sait jamais, les jeudis noirs, on en a déjà eu. Là, c'est passé à 3-1, tant mieux, ça a été bien géré. Et on a vu ce quatrième but, troisième but, pardon, qui a été exploité sur la fraîcheur des Niçois. Avec l'explosivité et tout ça, donc tant mieux.
En fait, ils étaient très tendus au début, un peu tendus par l'enjeu quand même. Ils avaient leur but d'avance. Mais après, le but de la board, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très bonne séquence. Offensivement, j'ai trouvé des choses super intéressantes. Ils ont vraiment des buteurs avec la board.
Brahimi
fait beaucoup de bien dans les déplacements. Des joueurs comme Brahimi qui n'avaient pas leur place au début de la saison. Là, on voit tout le changement avec Digard. Et puis Mofi, qui a mis un peu de temps à s'acclimater, enfin quelques matchs, et qui vraiment est intéressant, et pas seulement en tant que finisseur. Je trouve que même dans ses relais sur le, je crois que c'est sur le but Thuram qui est en relais.
Au fur et à mesure du match, j'ai trouvé beaucoup plus présent Flo. Au début, il était un petit peu éteint, peut-être par la peur, peut-être par l'enjeu et tout ça. Il n'y avait pas trop de courses. Ils étaient figés, les attaquants niçois, sur les défenseurs moldaves. Et puis, au fur et à mesure, il s'est libéré. Il y a eu beaucoup plus de courses. Il y a eu ce but de Laborde qui a donné beaucoup plus de largesse pour Mofi. Et Mofi, j'avais dit, il faut lui laisser un petit peu de temps. Faut pas, parce qu'il y avait déjà des critiques qui commençaient à arriver. Et là, franchement, il est très intéressant.
Et après, il y a comme à noter aussi que Dante n'était pas là. Et son remplaçant a été blessé là au début du match. Enfin, on a eu un peu peur. Mais ça a tenu, sauf dans la période un peu compliquée. Et surtout, une équipe qui court. Au début, ils étaient trop bas d'ailleurs. Brahimi était très bas, il venait chercher les ballons très bas. Mofi faisait aussi des efforts. Puisqu'on parle de nos représentants français, on a une équipe là qui est à l'image de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire au moins dans l'investissement, dans les courses. Et tu vois, ce qu'a apporté Digard avant tout, c'est cette volonté de tous de mettre de l'intensité, l'application, des courses. Ouais. Ils y sont. Il y a une équipe au moins. On sent qu'il y a une équipe qui peut, avec Todibo, avec des gars de caractère, et devant quand même, jouer avec Laborde, Mofi, Brahimi, c'est pas mal. Après, ça reste quand même, comme tu l'as dit, la petite Coupe d'Europe. Et moi, un Sheriff Tiraspol qui m'a quand même pas fait trembler ni à l'aller ni au retour. Enfin, tu vois, c'est parce que c'est Nice aussi qu'on a.
Bon, après, c'est dire, on a tellement eu de désillusions avec les clubs français.
C'est ça, on s'est tellement fait peur que.
Oui, tout est possible.
À quelle sauce on va être mangé.
On le dit après.
Regarde, quand tu vois les Rennais qui sont pas capables de se qualifier alors que le Shakhtar, ils vont en prendre 7
aujourd'hui.
Oui, demain, c'est pas le niveau de Rennes, quoi.
Exactement. Ouais, mais le Shakhtar, déjà, avec Tiraspol, là, tu vois, t'as déjà une division d'écart aussi. Hein. Même malgré tout, quoi.
Quentin est là au 32-16, supporter de Nice. Salut Quentin.
Oui, salut messieurs.
Salut Quentin.
Au quart de finale de Coupe d'Europe quand même.
Ouais, mais ça fait très plaisir. Après, au vu de ce qu'apporte Digard depuis qu'il est arrivé, faut pas oublier quand même qu'on sort d'une, malgré tout ce qu'il a apporté en 2016, on sort d'une série avec Favre qui était juste catastrophique avec une élimination au Puy-en-Velay, je le rappelle. Donc voilà, ce qui est quand même dingue avec Digard, c'est que non seulement il a réussi à faire en sorte que ces joueurs-là qui étaient amorphes, il les a transformés avec un état d'esprit mais juste irréprochable.
C'est vrai.
Il a réussi à faire d'une équipe amorphe une équipe qui crée du jeu mais sans cesse. Et je pense que ça peut être un gros point de progression, parce qu'on l'a vu à Nantes, on l'a vu contre Auxerre, etc. Souvent, on a du mal à gérer certains temps forts, plus nos temps forts que nos temps faibles, étonnamment. Et on l'a vu à Nantes où on a beaucoup beaucoup dominé en fin de match et on s'est fait surprendre à la fin. Là, on a mis le but qui nous qualifiait sans problème, juste sur l'engagement, on se le prend. Bon, même si au final on tremble pas beaucoup ce soir, on est quand même très très solide. Mais voilà, ça c'est quand même un point de progression. Mais par contre, voilà, dans l'ensemble, ce qu'a réussi à faire Digard, c'est juste exceptionnel. Enfin, on n'aurait pas misé un centime sur le fait que Digard transforme cette équipe. Et quel dommage d'avoir autant de points de retard, parce que là, avec le rythme qu'on a, on n'a pas perdu depuis quoi, 11 journées, 12 journées. Mmh. 7 victoires en 11 matchs. On gagne à Lens, on gagne à Marseille, on gagne à Monaco. Voilà, c'est, et puis des joueurs, voilà, Brahimi, il est en mode Gareth Bale depuis 3 semaines, Youssouf, il sort de Beşiktaş, il est très très bon, Thuram, Todibo, bon, on connaît, Schmeichel, il devient bon, il fait des arrêts.
J'ai trouvé Rosario voilà, un tour en dessous, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, pas ce soir, Lionel.
Ah ouais?
Pas ce soir.
Moi, j'ai pas, je l'ai vu meilleur que ça, des fois, quand même.
Ouais,
mais alors, il jouait trop, il joue pas son poste. Moi, ce soir, je l'ai vu beaucoup se projeter.
T'avais Ramsey qui était un cran plus bas. Après, on l'a un peu plus vu en seconde mi-temps, mais Ramsey a joué un cran plus bas. C'est juste dommage que Boudaoui ait pas joué ce soir, parce que lui, il est en très grande forme. Mais voilà, on sent que ça prend. Il y a Pépé qui revient, Mofi qui devient.
Ça va faire du bien, Pépé Mofi. Ouais. Pépé Mofi devant, ça va. Tu mets de la vitesse, tu mets de la percussion.
C'est peut-être quand même effectivement le milieu de terrain où il y a des choses à revoir,
Thuram,
à recaler.
J'ai très bon, par contre.
Thuram, évidemment, lui est très bon, mais tu vois, ce système avec Ramsey, effectivement, un peu plus bas. Moi, encore une fois, je faire attention à ce match avec le Sheriff Tiraspol, c'est que c'est pas un épouvantail. C'est peut-être par rapport à ce que fait Digard, c'est au milieu de terrain où je trouve qu'il y a encore du mieux, ça peut être mieux.
Ouais. Ouais, mais Flo, d'habitude, tu as Boudaoui ouais, à la place, parce que Ramsey, c'est pas vraiment son rôle d'être ainsi. Mais si tu regardes bien dans les matchs où on a été très très bon avec Digard, où on a été excellent, surtout les 60 premières minutes à Marseille, où on a été très bon tout le match à Lens, c'est parce que Boudaoui est en 6. Et Boudaoui, il perd pas un ballon, et ça permet justement à Ramsey de se projeter un peu plus, de faire les transitions, d'écarter. Mais voilà, un joueur comme Laborde, c'est pareil. Combien de ballons il est allé chercher, récupérer
top
sur le côté?
Top Gaëtan Laborde,
c'est un match compliqué. On l'a vu aller, c'était pas évident. Même si la pelouse était difficile, on savait que c'était une bonne équipe avec des qualités. Donc voilà, je suis fier de mes coéquipiers, parce qu'on a pris le match par le bon bout, et aujourd'hui on a la qualif, donc on est très content.
Du sérieux, de l'application, et d'abord parlez-nous de ce but, parce que le premier but est juste magnifique. Ça part de Schmeichel, et à l'arrivée, il y a le geste fabuleux.
Non, bien, Kefren met super ballon aussi, donc voilà, c'était bien. C'était important pour l'équipe aussi de marquer ce premier but pour libérer un peu tout le monde, libérer le stade. Donc ouais, c'est positif pour moi et pour l'équipe.
Il y a eu un moment de doute un petit peu, ou un moment de coup de mou, j'ai envie de dire, en deuxième période. Vous l'expliquez comment?
Ouais, bah écoutez, on marque ce deuxième but qui est libérateur, et on se prend ce but coup sur coup. Donc eux, ils surfent sur leur dynamique de ce but, et nous, on a fait deux ronds, donc c'est bien. On n'a pas encaissé de deuxième but, donc félicitations à toute l'équipe.
Content de passer au travers d'un jeudi noir et de se dire que voilà, Nice va continuer l'aventure, et ça va en plus faire du bien au football français.
Ouais, bon, au final, nous, on pensait surtout à notre performance et de passer. Après, forcément, c'est positif pour tout le monde, mais voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est l'équipe, c'est nous. On avance, et puis voilà, du jeu est déjà tourné sur le match de dimanche du championnat aussi.
Qu'on compte sur vous au niveau européen, ça ne va pas vous mettre plus de pression, rassurez-moi.
Non, après, de toute façon, les quarts de finale, les matchs de foot, nous, on adore ça. On vit avec la pression, c'est notre quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, on va déjà penser au match de dimanche. On verra quelle équipe on rencontrera en quart de finale, et puis on va envoyer.
Il y a une vraie dynamique avec l'arrivée de Didier Digard, toujours pas de défaite, et surtout le fait que petit à petit, tant en championnat que le jeudi soir en Coupe d'Europe, vous arrivez à trouver le bon rythme. Est-ce que ça peut vous aider aussi pour finir la saison correctement?
Bien sûr. Quand on joue avec de la confiance, quand on gagne des matchs, forcément, ça, comme ça roule tout seul. Aujourd'hui, on a trouvé un bon rythme, mais c'est très fragile. Demain, une défaite peut arriver. Donc, on est très vigilant par rapport à ça. Je pense qu'on a des gars d'expérience aussi dans l'équipe pour essayer de tenir ça. Ça passe par l'engagement, par l'intensité qu'on met dans les matchs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire avec constance.
Kefren Passeur, ça sera ma dernière question. Retenu en équipe de France.
Ouais.
Vous lui avez dit quoi quand vous l'avez su pour lui?
Non, félicitations. On était tous derrière le téléphone. On a tous sauté de joie. Donc voilà, aujourd'hui, il a même pu marquer ce but pour encore mieux fêter cette sélection. Mais en tout cas, je suis très, très fier pour lui. Un peu déçu pour JC, parce que je pense qu'il méritait. Il fait une saison extraordinaire. Aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur défenseur de Ligue 1. Donc, mais voilà, aujourd'hui, tout ça va arriver pour lui, aucun doute.
Merci beaucoup, Gaëtan.
Pas de souci.
Voilà, Gaëtan Laborde qui était en direct. Il parlait de Jean-Claire Todibo quand il dit JC. Gaëtan Laborde.
C'est pas Jésus-Christ.
C'est pas Jésus-Christ, effectivement. C'est Jean-Claire.
Jean-Claire, j'adore. Todibo.
Après, t'as Saliba qui est sorti sur blessure. Hein.
Ouais. Oui, bon, c'est pas encore.
Mais d'ailleurs, il avait une pré-convocation, Jean-Claire Todibo, donc il est. Non, mais c'est vrai.
Ouais,
il est tout à fait dans le. Je pense qu'il est dans la zone.
Quentin est toujours avec nous. Pardon, Quentin, on t'a coupé. Gaëtan Laborde, il t'a débordé.
Justement, ben, il a dit ce que je voulais dire, Gaëtan. Son but, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment un but à la Laborde. Il est un peu bloqué sur le côté, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il trouve l'ouverture et je ne sais pas si vous avez fait attention. Il fait quand même un sprint et c'est pas le joueur le plus rapide. Hein, il fait un sprint de 30-35 mètres. Thuram, il lui glisse super bien. Puis le piqué, c'est pas le but le plus facile.
C'est une bonne finition.
Donc c'est ça qui nous manquait aussi, des joueurs dans cet état d'esprit-là, pas les plus fins techniquement, pas les joueurs les plus avec des noms flamboyants, mais par contre voilà, Laborde, c'est valeur sûre, on a besoin d'un joueur comme lui, et voilà, Digard, il a 100% confiance en son groupe, il fait 4 changements à la 60e, hein. Le match il peut mal tourner, hein. Mais non, il fait 4 changements,
ça
il
m'a
est
fait
sûr
peur
de lui.
Parce qu'il y a ces 4 changements, alors tu te dis c'est bien parce qu'il y a de la fraîcheur, mais cette fraîcheur n'était pas exploitée par le groupe, enfin par le bloc niçois. Tu te dis bah s'il y a pas la fraîcheur, que t'as 4 changements, tu peux avoir de la désorganisation, et puis t'es pas à l'abri ensuite parce qu'il fait le 5e changement tout de suite après, il reste pratiquement un quart d'heure à jouer, et tu te dis là, si jamais t'es encore à 2-1, il y a un blessé, comment ça peut tourner? Puis après
ça peut mal tourner. Après t'as vu ce qu'il a fait en même temps que les 4 changements?
Exactement.
On est passé à 3 derrière.
Ouais, il a changé tactiquement.
Voilà, et c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'il se contente pas de surfer sur sa bonne dynamique, nouvel entraîneur. Non, là, c'est ça les deux premiers matchs. On est plutôt bon en 4-4-2 quand on est sur le papier supérieur à l'adversaire. Mais par contre, quand il faut un petit peu plus reculer et être bon en contre-attaque, quand on est à 5 derrière avec notamment Youssouf et Todibo, bon là il n'y avait pas Dante, mais on sent qu'avec ces 3 derrière, les 2 latéraux avec Lotomba, qui c'est une révélation là, cette année, et avec les 3 devant, parce que mine de rien ça fait 3 flèches entre Brahimi,
Pépé qui rentre
Zété
aussi, hein. Et tu peux l'exploiter Pépé, la vitesse.
Mais c'est d'ailleurs, je voulais revenir sur le changement, le 5e changement aussitôt dans le match, à mon avis, c'est quand même une connerie.
J'ai eu peur, je suis comme toi.
C'est curieux quand t'as pas d'obligation, si tu veux, tactiquement de renverser quoi que ce soit, quoi qu'il arrive.
Ah, mais t'as aussi le match de Lorient.
C'est curieux d'en faire 4 d'un coup, autant faire 3 si t'as besoin d'un, un quart d'heure de la fin, et de t'en garder un au cas où. Bon, ça c'est un détail. Et après, effectivement, sur les profils des joueurs, c'est intéressant parce que on retrouve. Enfin, Laborde, c'est sa façon d'être. Il l'a fait avec Rennes aussi beaucoup. Il a besoin de courir. Laborde, il a besoin de faire du pressing. Ça fait partie de son l'abattage, fait partie de son jeu. T'as raison de le souligner aussi. Et après, effectivement, cette balle piquée à la fin. Bah, elle est pas mise. Bon, il y a un défenseur qui anticipe beaucoup en fait et qui se jette sur la ligne. Donc Laborde le lobe facilement, mais non c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, avec Laborde, avec même Mofi, j'ai trouvé dans les replis, et Brahimi qui redescend des bas, il a des joueurs, enfin il demande beaucoup à ses joueurs, et ses joueurs lui rendent bien.
Un petit point sur la prolongation entre Arsenal et le Sporting. C'est le dernier match en cours là en Europa League, Aurélien.
Et corner pour Arsenal. Un partout entre Arsenal et le Sporting. Ça chauffe d'ailleurs entre Granit Xhaka et Ricardo Esgallo. D'ailleurs, monsieur Mateo Laos, l'arbitre espagnol, qui dit à Granit Xhaka, le buteur d'Arsenal d'ailleurs, de se calmer. Bon, c'est une minute de temps additionnel. Il restera une trentaine de secondes. Un but partout.
À tout à l'heure. Dans quelques instants, on conclut les Banissois. Quentin, merci beaucoup.
Merci à vous, et petite pensée quand même pour Todibo. Je trouve que au-delà du supporter que je suis, par rapport à un Fofana qui a joué 15 matchs en 2 ans, c'est un peu dur pour lui. Mais si Saliba, même si j'espère que ce soit pas grave pour lui, il se blesse, normalement il devrait être dans la liste. Et je fais un gros bisou à Maïder qui m'écoute. Voilà. Comme ça, la dédicace est passée.
Salut Quentin.
Ça marche. Salut Quentin.
Bonne
bientôt.
Soirée,
on continue le débat niçois dans quelques instants, et ensuite le reste de l'actu du jour, notamment la liste de Didier Deschamps, le futur capitaine des Bleus, parce que hier on en a débattu, mais on n'est pas plus avancé aujourd'hui. Et le reste de l'actu, bien sûr, dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC. Il est 23h17, Florent Gautreau et Lionel Charbonnier sont là. Prolongation en cours entre Arsenal et le Sporting. Aurélien, changement de côté, on est à la moitié de la prolongue. Ah ben Aurélien n'est pas là, je vous le confirme à partout. Encore un quart d'heure, peut-être les tirs au but. À suivre. Oui, j'aimerais quand même qu'on continue un peu le débat niçois, parce qu'il y a un truc qui est assez étonnant avec Digard, c'est que moi, c'est l'impression que ça donne, il a réussi à transformer des joueurs. Tout à l'heure, on parlait de Lotomba. c'était un gars, Nice, personne dans les tribunes de Nice voulait l'Otomba, parce que c'était le mec, tu dis, pas en confiance et tout. Transformé. Jean-Claire Todibo, transformé.
Non, Jean-Claire Todibo était déjà.
Thuram, extraordinaire.
T'as raison sur la.
Enfin, plus la liste est assez longue.
T'as raison, mais c'est
plus les révélations. Ouais, Schmeichel, transformé.
Rien à voir.
Ouais, alors je suis pas certain que Digard transforme. Enfin, là, Lionel pourra nous en parler. Un gardien de but. Je pense que lui.
C'est une dynamique de groupe. Il a ce qui a été mis à l'intérieur de ça.
C'est lui qui s'est mis aussi un peu, qui s'est remis en question et qui est revenu un peu à un bon niveau.
Peut-être qu'on l'a aidé aussi. Enfin, tous ces joueurs-là, parce que honnêtement, depuis le début, personnellement, je disais, je trouvais ce recrutement.
Je sais pas, on est sur un gars qui voulait pas venir déjà. Et il l'a dit récemment, il voulait rester en Angleterre.
Ouais, il s'impliquait pas. Il était pas dedans. Il y en avait beaucoup qui le trouvaient encore, qu'il était venu faire plus en villégiature qu'autre chose. Et j'étais d'accord avec ça. Maintenant, après, quand il y a une dynamique de groupe, là, il y a quelque chose qui est parlant sur le but de Laborde, c'est la première relance de Schmeichel. Les gens aussi comprennent que quand on fait une passe, c'est le football, c'est pas que du pouce ballon, c'est pas tiens on fait une passe et puis on va voir ce qu'il y a. Quand tu transmets un ballon, tu transmets aussi une intention de jeu. Et là, quand on voit Schmeichel dégager,
tu veux dire.
Non, tu dis. Mais franchement, il y a plein de fois dans mes relances, je relançais à mon joueur. Je lui disais en même temps que je relançais, je disais tiens, celle-là elle est pour aller marquer. Et il y en a d'autres. Tu dis non, là on va temporiser à ce moment-là. Et donc tu transmets d'autres choses. Tu fais pas simplement qu'une passe. Tu transmets d'autres choses, des émotions à travers le ballon. Les gens vont me prendre pour un dingue, mais c'est la vérité que je dis. Et là-dessus. Sur la première relance de Schmeichel, elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'il prend, il fait une relance au pied qui est extraordinaire et il passe le mot. Il donne une intention de jeu. Sa passe, elle est très forte, elle est très précise et ça va vite devant. Et c'est la seule fois où vraiment les Niçois sont allés très vite en trois passes. Ils ont traversé le terrain et ils ont marqué. C'est la seule fois de la première mi-temps. C'était une force. C'est Schmeichel qui a impliqué ça. Au début de saison, je l'ai jamais vu faire ça. Jamais. Il y a d'autres intentions. Et ça vient aussi je suis certain, de Digard, qui donne d'autres intentions, qui fait vivre ce groupe avec des gens qui sont impliqués, des joueurs finalement impliqués, dont Schmeichel et tous les autres joueurs qui ont suivi.
Et c'est une équipe, Digard a fait beaucoup, c'est sûr. Moi, je l'ai déjà dit ici, j'ai été choqué aussi par le fait que certains joueurs, parce que Digard a pas tout fait, il y a les joueurs, eux aussi, qui se sont mis en mode on après avoir été en off.
Flo, si tu retenais les leçons de Daniel Riolo, tu aurais dit ce soir, excusez-moi, j'ai été le premier début janvier à vous dire que Nice ferait une deuxième grande partie de saison.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a un mec
qui veut y jouer la modestie.
Je l'avais dit et je pensais même pas qui ferait la série qu'ils ont fait déjà en Ligue 1.
Ah oui.
Je pensais que c'était la deuxième équipe, deuxième partie de saison, parce que je trouve que leur effectif est bien. Et ils étaient déjà pas mal. Et ils se sont vraiment renforcés.
Alors on est d'accord là-dessus.
Donc, ils ont une très belle équipe.
Mais j'étais pas fier, parce que moi aussi, je trouvais que le recrutement était très bon. Je ne comprenais pas qu'il y ait un tel jeu, d'une bassesse incroyable en début de saison. Je n'arrivais pas à comprendre.
Tu comprends pas parce que il y a un truc, et là moi je le répète quand même encore une fois, les joueurs sont responsables de ce qui s'est passé aussi avec Favre.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont ce qu'ils font comme effort aujourd'hui, ils ne les faisaient plus, ils ne les faisaient pas. Et aujourd'hui c'est une équipe qui a plein de qualités parce que évidemment elle a ce jeu moderne, on va dire, de par les courses, de par l'intensité qu'elle met. Offensivement elle est intéressante parce que vous l'avez dit, il y a le retour de Pépé. J'ai cité les trois autres tout à l'heure. Il y a le retour de Pépé en plus. Et puis il y a des cadres. Schmeichel a de l'expérience.
Dante,
Todibo. Quand t'es dans le vestiaire avec des gars comme ça, à la fois dans l'attitude la colonne, et je parle pas forcément d'âge, tu vois, je parle de caractère. Tu vois que Todibo, bon, en gros, t'as vu, c'est le capitaine ce soir, c'est le caractère.
Après, t'as de l'expérience et t'as des jeunes joueurs qui sont à côté et toute si tu regardes la colonne, elle est bien.
On va l'écouter. Il a été sélectionné en plus aujourd'hui.
Oui, parce qu'on a fait un bon match, donc on est satisfait, on est très heureux de notre performance parce qu'on s'est qualifié en quart de finale et ça faisait un petit moment que le club ne s'était pas qualifié dans une quart de finale de Coupe d'Europe. Donc on est très content ce soir.
Vous avez le sentiment de maîtriser, de dominer. C'est ce que nous expliquait à l'instant Julien Sablé. Mais il y a eu un petit coup de mou en deuxième période. Est-ce qu'il y a eu un peu de doute ou pas du tout? Ou vous êtes resté quand même malgré tout sur la gestion du match?
Non, on n'a pas eu de doute parce qu'on a, on a confiance dans le collectif, on a confiance en nos qualités et ça arrive de prendre des buts. Le plus important, c'est de pas baisser la tête. Et je pense qu'on n'a pas douté, on a su reprendre le contrôle du match et on a bien terminé.
Le gym était attendu pour vous, pour le club, pour le foot français aussi, parce que c'est jeudi noir, on en avait un petit peu marre. Et ce soir, vous aviez un peu plus de pression, ou c'était vraiment par rapport au fait que Nice avait envie d'écrire encore une nouvelle page de son histoire européenne?
Non, je pense pas qu'on avait de la pression. On n'avait pas de pression, on a très bien abordé ce match, on était très serein, comme je l'ai dit. Et oui, on voulait encore écrire une page dans l'histoire de Nice. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Et il faut continuer à être sérieux, continuer à progresser en tant qu'équipe tous les jours.
Personnellement, journée particulière hein, avec la sélection en équipe de France. Vous l'avez vécu comment, Gaëtan Laborde? Vous avez dit, vous étiez tous autour du téléphone. Expliquez-nous un peu, racontez-nous.
Ouais, on était à table et j'ai mis mon téléphone pour regarder la liste. Et le coach a dit mon prénom. Ils étaient vraiment tous contents pour moi. Et franchement, je remercie beaucoup JC Todibo parce qu'il n'a pas été appelé, mais franchement, il m'a fait plein de bisous, beaucoup de câlins, et j'ai vu qu'il était très heureux pour moi. Et j'étais un peu déçu pour lui, mais en tout cas, je le remercie parce qu'il n'a pas fait voir qu'il était déçu, il était à côté de moi, il m'a encouragé. C'est un gars super, et je suis très content d'être avec lui tous les jours, donc sur ça, je le remercie.
Ça symbolise quoi pour vous cette sélection en A?
Ça symbolise que pour l'instant je travaille bien et qu'il faut que je continue à travailler encore plus, toujours plus intelligemment. Mais franchement, je suis très content d'avoir été appelé pour la première fois et je suis assez fier, et surtout qu'il y a mon frère aussi. Donc franchement, c'est incroyable.
Justement, 13e fratrie de l'histoire de l'équipe de France, retrouver Marcus en bleu, ça a une saveur, je suppose, particulière, non?
Ouais, c'est incroyable. Déjà, moi, quand je le regardais en tant que supporter, c'était déjà quelque chose d'incroyable. J'avais une émotion assez particulière de le voir porter ce maillot. Et là, ça va être encore plus formidable d'être en équipe de France avec lui.
Juste une dernière question. Dans votre tête, vous savez qu'il y a le championnat d'Europe Espoir aussi. Entre les A et les Espoirs, à un moment donné, vous allez vous positionner, vous, ou vous pensez que ça viendra par rapport à la situation que mettra devant vous un Sylvain Ripoll ou un
Didier Deschamps?
Oui, vous, dans l'esprit.
C'est pas à moi de me positionner. Moi, je suis là pour jouer du mieux possible, performer. Et après, on verra. Mais moi, je vais pas me positionner. En tout cas, c'est pas ma décision, ça.
Parfait. Merci beaucoup. Merci, Kefren.
On en reparlera tout à l'heure hein, de la dynastie Thuram en équipe de France.
Incroyable.
Ouais. C'est vrai que c'est reste plus qu'à à Lilian de prendre la présidence de la Fédé, et puis voilà.
Il
nous en cernait.
C'est quand même une histoire géniale.
Oui.
C'est quand même rare. J'ai pas regardé.
On en reparlera dans quelques minutes. Ouais. Finition sur Nice, parce que Tony est là au 32-16. Salut Tony.
Salut Tony.
Salut messieurs.
Salut Tony.
Tony, je te fais un petit quiz. Nice a déjà été deux fois en quart de finale de Coupe d'Europe. Tu sais quand?
Bon, je crois que j'ai cru voir passer que c'était à
63
ans, non? Un truc comme
57,
ça.
57, non?
56. Alors, premier quart de finale, c'était en 57.
Ah,
voilà. Contre le Real Madrid. C'était en
60.
Deux fois contre
ouais.
Et deux
ouais,
fois le
Real. Ans, j'y suis, Gilbert.
Pardon, t'es pas mal, Tony.
Le Real de Copain.
En 57, Nice est champion en 56, donc il joue 56-57 en Coupe d'Europe des clubs champions, comme on disait.
Deux fois le Real.
Il joue Aarhus, les Danois les éliminent. Il joue les Glasgow Rangers, ils les éliminent. Et ils perdent contre le Real.
Les Glasgow.
Deux défaites là contre le Real en 57. Et après en 60, il joue les Shamrock Rovers, club irlandais. Fenerbahçe, là il passe. Et il repère à nouveau contre le Real en quart. Voilà. Avec notamment un triplé de Vic Nuremberg au stade du Ray.
Sacré joueur.
Et le, ça veut dire
bon,
que
personne
c'est
de nous l'a vu jouer. Hein, enfin bon, je...
le Real en 60 remporte la Coupe des Champions d'ailleurs.
Derrière, après, à l'époque, en trois tours, t'étais en quart de finale. Hein. Donc il y avait moins d'équipes. Je veux dire, bon. Mais n'empêche que.
Il faut y aller.
N'empêche que c'est la troisième fois donc, que Nice est en quart de finale.
C'est intéressant. Alors moi, je reste quand même. Vigilant et calme pour dire que c'est la petite Coupe d'Europe, donc il faut rester calme. Parce que là, tu fais référence quand même à une décennie où Nice était champion de France,
oui.
Plusieurs fois. Nice était en Coupe d'Europe et la grande Coupe d'Europe, c'était vraiment les années... c'était comme le Lyon des années 2000.
Ouais, Nice dominait.
Là, Nice dominait le championnat et le foot français. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, Nice est à sa place. Ils sont pas ni dans la première ni dans la deuxième. Ils sont dans l'autre Coupe d'Europe. Il faut voir d'où tu viens quand même. Nice essaie de se construire. Moi, ce qui m'intéresse plus.
Ouais, mais c'est ça. C'est dans la construction.
J'aimerais que Tony donne son avis.
Non, mais moi j'ai 30 ans, vraiment, c'était des bons moments dans les années 60, je me suis régalé.
Non, mais là, on parle de maintenant, là. On parle de...
Je sais. Mais, non, mais moi, ce soir, je suis hyper content. J'avais peur du piège, franchement, avec cette équipe de Tiraspol, parce que, voilà, on a eu tout le refrain de... C'est quand même une équipe qui a un peu d'expérience. Le match aller où on a un peu souffert sur leur champ de patates. Donc voilà, il fallait faire le taf. Je suis content qu'il y ait du monde au stade. Je suis content qu'on ait vu un match où on a joué. Franchement, il y avait du monde au stade.
Mais tu étais au stade, là?
Non, pas exactement. Non, je vis à Paris. Je suis entendu, je suis expatrié. Mais c'est vrai que
les images, on a vu, on s'est dit, tiens, il se passe un truc.
En fait, avant le match, il y avait une communication comme quoi il y aurait entre 25 et 30 000 personnes parce qu'ils ont ouvert le troisième anneau, l'anneau Garibaldi. Mm-hmm. Donc, franchement, belle ambiance. Les gens, ils sont... En fait, souvent avec le gym, et on l'a déjà dit, quand vous parliez, notamment l'année dernière, quand il n'y avait pas de jeu, vous parliez énormément du fait qu'il y avait, que ce projet ne prenait pas forme, que les gens n'allaient pas au stade à cause de la pauvre qualité de jeu. Mais en fait, les gens, ils vont au stade quand on commence à avoir des sentiments, des émotions.
C'est-à-dire que le niçois est exigeant, quoi.
Ouais, enfin le Niçois, exigence peut-être, mais c'est surtout qu'en Coupe de France, quand on a commencé à aller loin, il y a eu du monde au stade. Là, voilà, il y a une émulation, donc les gens vont au stade et on va voir. Mais moi, peu importe qui on tire, je pense qu'en cas, il y aura du monde. Si on va encore plus loin, il y aura du monde. Et même, je pense que même à Prague, si on y va, il y aura du monde. Donc voilà, j'ai envie de rêver.
Prague, c'est pour la finale. Hein.
Exactement. Si on va à Prague, c'est pour la finale. Mais on n'en est pas là en vrai. Il y a quand même des bonnes équipes et on verra, mais c'est juste qu'on est content de vibrer parce que ce début de saison, il était terrible. On était vraiment pas bon. La Coupe de France, on sait sortir tôt. Donc, vraiment, c'est cette Coupe d'Europe, cette petite Coupe d'Europe qui nous permet de vibrer, là. Et moi, si on peut vibrer longtemps et si on peut aller loin, je souhaite que ça, quoi. Je trouve que l'équipe, elle tourne mieux. D'hier, pas d'hier, j'en sais rien. Je trouve que les joueurs, en effet, se sont réveillés depuis qu'il est là. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils voulaient le départ de Favre. Mais je prends du plaisir à voir cette équipe, je me régale, je trouve que Mofi c'est un bon recrutement, je trouve que ça se structure. Et aujourd'hui, j'ai vu une bonne équipe, j'ai trouvé qu'on avait dominé, qu'on avait été serein. Et franchement, ouais, je suis vraiment content ce soir et j'espère que je vais pouvoir vibrer en quart, quoi, contre une bonne équipe et qu'on pourra aller loin et qu'on pourra vivre une vraie épopée européenne si on va loin.
Bon, écoute, on le souhaite à Nice. Après, une bonne équipe en quart, je suis en train de regarder quelle pourrait être l'équipe la plus... non, mais il faut éviter West Ham et la Fiorentina. Bon, allez, un petit lèche Poznan, c'est pas mal.
Ouais, quand tu dis bonne, c'est un bon tirage, tu veux dire.
Oui, un bon tirage, une équipe les plus faibles, quoi.
Le jackpot, messieurs dames.
Ouais, l'équipe jackpot, messieurs dames.
Lèche Poznan. Faut éviter Alkmaar, quand même. Ils ont sorti la Lazio aussi. Enfin, il y a quelques bonnes équipes. Après... Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on est meilleur contre les gros, quoi. On l'a montré souvent en championnat. On a plus de mal contre les équipes qui nous laissent le ballon, je trouve, en général. Mais voilà, je regarderai le tirage et en effet. Vous m'entendrez pas dire que c'est un bon tirage. De toute façon, on va rester superstitieux et on verra bien pour essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Parce que franchement, là, c'est que du bonheur. Moi, quand j'entends Lionel qui nous dit. Quand c'est une passe dans le football, c'est une intention de jeu. Quand j'entends Thuram qui dit quand je suis appelé en équipe de France, Jean Cartolido qui se tourne vers moi et qui me félicite et tout, c'est de l'amour ce soir. Il y a de l'amour ce soir à l'OGC Nice.
Très bien.
Dans l'after foot.
Non mais exactement. Et puis
c'est ça.
Non mais cela dit, ça nous fait oublier aussi un peu le. Rappelez-vous ce qui s'est passé cet automne, parce que cet automne, la campagne de Nice, c'était pas forcément génial. Il y a eu les histoires dans les tribunes avec Cologne, les bastons.
Ouais, mais il faut.
Il y a eu une défaite contre Slovaco à la maison.
Ouais, mais
c'est pas.
Ce qui
serait... pas vraiment rêvé, quoi.
Non mais ce qui serait important avec cette série sur le terrain. Et moi je suis content que ce soit. Par le terrain, finalement, que tout le monde se réconcilie, c'est-à-dire les supporters, les joueurs, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur en début de saison, c'est le projet derrière. Parce que, tu sais, à Nice, on attend vraiment une grosse équipe. Ratcliffe a annoncé, enfin, Ineos a annoncé qu'il voulait en faire une équipe régulièrement, à terme, sur le podium de la Ligue 1. Mmh. Or, on a des doutes. Parce qu'on sait qu'ils veulent aller acheter en Angleterre, on ne sait pas vraiment s'ils veulent vraiment investir à Nice. Donc là, il y a des efforts au mercato. Ils se structurent avec Gisolfi en coulisses. Donc là, ça ressemble à quelque chose. Sportivement, il se passe quelque chose avec les supporters en ville. La Coupe d'Europe, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, c'est pas anodin parce que ça nourrit cette histoire. Si ça pouvait faire décoller vraiment le projet et convaincre Ineos de vraiment s'investir et beaucoup plus à Nice, ça peut être que positif.
Mais je trouve que dans le projet, justement, cette Coupe d'Europe, même si c'est, on appelle petite Coupe d'Europe, elle est très importante parce que c'est à travers cette petite Coupe d'Europe, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de petite Coupe d'Europe. On verra dans les demi-finales et tout ça, il va y avoir des belles équipes. Si Nice en fait partie, tant mieux. Et elle est très importante dans le projet parce que t'apprends à gagner en Europe. T'apprends, les matchs de Coupe d'Europe sont complètement différents des matchs de championnat.
Moi, je voudrais que ça convainque aussi les boss, quoi, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils le soient, tu sais, qu'ils soient convaincus à 2000%,
se dire, condition qu'ils aient l'humilité, ou pas. À condition que les boss aient l'humilité d'apprendre que le football, ça se gagne petit à petit. Pas se brûler les ailes trop vite aussi.
Je remercie Tony au 32-16, je vous donne rendez-vous dans, deux grosses minutes pour la suite de l'after. Tiens, on va faire un petit tour en Belgique pour finir cette soirée d'Europa League et ensuite trois clubs belges qualifiés quand même, Anderlecht, la Gantoise, Saint-Gilloise, et ensuite l'équipe de France au programme, le PSG également, on a de l'actu PSG, et puis peut-être une séance de tir au but entre Arsenal et le Sporting. Aurélien Tirsin,
on va y aller, il reste 30 secondes avant la fin du temps réglementaire. Adane, qui était l'ami de l'Olympique de Marseille, qui avait fait un match cata au Stade Vélodrome, est excellent ce soir. Il a fait une manchette notamment sur une tête de Gabriel magnifique qui permet au Sporting, qui a été réduit à 10 avec l'expulsion d'Ougarté, de tenir un but partout à l'Emirates Stadium.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h37, Lionel Charbonnier, Florent Gautreau. Séance de tir au but à suivre entre Arsenal et le Sporting. Aurélien Tirsin, dans quelques secondes.
Ouais, à venir. Un partout à la fin des prolongations. Il y avait eu deux partout lors du match au Portugal. Pour rappel, c'est Granit Xhaka qui avait marqué le premier but pour Arsenal. Égalisation exceptionnelle de Pedro Gonçalves. Une frappe de plus de 40 mètres qui est venue lober Aaron Ramsdale. Et Ruben Amorim est en train de réfléchir et surtout de regretter peut-être les occasions ratées par les joueurs portugais parce qu'ils en ont eu pas mal. Il y a eu deux gros matchs de gardiens, Lionel d'ailleurs, hein, Ramsdale côté Arsenal et Adane qui a fait notamment une manchette magnifique sur une tête de Gabriel, l'ancien Lillois, à la toute fin de la prolongation. Donc un partout, okay. Tir au but à venir.
Granit Xhaka, joueur préféré d'Alain Roche.
Oui, et de Pascal Pierre.
Et de Pascal Pierre aussi.
Adane qui peut devenir...
Et d'Andrew Gravillon. Eh oui, monsieur.
C'est vrai. Adane qui peut devenir, le héros après avoir été le zéro contre...
l'OM.
Contre l'OM.
Tiens, les gars, je vous propose d'accueillir Thomas, qui est le coach de l'équipe féminine de l'Union Saint-Gilloise. Salut Thomas.
Salut.
Salut Thomas.
Ben dis donc, c'est incroyable. Trois clubs belges qualifiés ce soir. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, c'est un peu de réussite parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de résultats les dernières années, mais là, c'est vrai que cette année, c'est incroyable. Sortir avec le troisième de Bundesliga.
Bah oui, parce que l'Union de Berlin fait quand même une super saison. Ils ont éliminé l'Ajax au tour d'avant, les Berlinois, et là, vous leur avez mis six buts de match, si je dis pas de bêtises. C'est assez impressionnant.
Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, autant à l'aller, il y avait eu match, mais là, je pense qu'ils ont écouté l'after pendant deux jours et ils se sont dit, on va mettre Polo au fond du trou, là, parce qu'il a eu deux journées difficiles.
C'est vrai. C'est vrai, le pauvre, il est pas avec nous ce soir, du coup. Donc toi, tu suis l'after depuis Bruxelles?
Oui, c'est ça. J'écoute tous les jours. Ça fait râler ma compagne quand il y a des débats enflammés, parce que je mets ça en podcast le matin, mais ouais, j'écoute ça depuis Bruxelles.
Bon bah écoute, on s'excuse auprès d'elle, hein. Voilà, on compatit aisément. Jusqu'où tu les vois aller, les gars de la Saint-Gilloise, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un gros casting là, la Juve, Manchester United, Séville par exemple, quoique Séville est pas très bien installé, mais enfin la Roma.
Déjà, c'est la Royale Union Saint-Gilloise, c'est important ici. Je pense que personne au club s'attendait à arriver jusque-là. Alors maintenant, en quart de finale, on avait déjà joué l'Union Berlin en coupe. On espère tous avoir un gros. C'est un club qui, il y a deux ans, était en deuxième division. C'est un club qui a fait plus de 40 ans en deuxième division. Pourtant, c'est un des clubs les plus titrés de Belgique. Là pour le club, ce serait incroyable d'avoir une grosse affiche, quoi.
12 millions de budget, les gars.
C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans pour que le club comme ça arrive à ce niveau-là, alors qu'il y a deux ans encore, c'était très compliqué. Et là, tu bats l'Union Berlin, quoi. Le changement, c'est quoi? Le plus gros changement.
Il y a quelques années, il y a déjà eu un changement de propriétaire. Hein. C'est les propriétaires de Brighton qui ont repris le club. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un groupe avec des mecs qui vivotaient, enfin qui avaient pas des carrières incroyables. Il y a des mecs, je pense à Candouze, il a joué à Dunkerque, La Poussin a joué au Red Star, et ces mecs-là en France, en National ou en Ligue 2, étaient pas considérés. En fait, c'est un groupe comme ça de joueurs un peu revanchards. Et puis l'année dernière, s'il n'y a pas de play-off en Belgique, ils sont champions, et là ils sont en quart de finale d'Europa League, quoi. Donc
c'est juste une équipe première. C'est pas une politique technique du club qui est complètement différente.
Ben, y a un peu des deux. Y a l'aspect revanchard. C'est un club qui travaille beaucoup avec la data. Hein. C'est un peu la mode en ce moment. On voit ça avec Toulouse. On
travaille différemment.
Ouais, voilà, c'est travailler évidemment différemment. Mais au-delà de ça, c'est un club qui dégage quelque chose, une atmosphère. Il y a des supporters incroyables. Donc, en fait, tout est positif autour du club. Donc, ça aide. Mais c'est sûr que quand on voit le budget du club et qu'on voit ce que nos clubs français font, parfois en Europa League, et ce que font cette année, on se dit que. Allez,
et ton équipe féminine, c'est quoi? C'est la DA belge aussi?
Non, on a. En fait, moi, quand je suis arrivé au club il y a un peu plus de deux ans pour créer la section féminine.
D'accord.
Et là, on vient d'accéder à l'échelon national. On a rejoint l'échelon national en un temps record.
Bon, bah bravo. Bon. D'ailleurs, l'actu de l'équipe de France féminine, Thierry Henry a refusé le poste, figurez-vous. C'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit aujourd'hui. C'était une idée de proposer. Mais il a dit, il a poliment refusé, disons. Merci Thomas!
Merci beaucoup. Et
à très bientôt dans l'After. On
J'y vais la semaine prochaine à Bruxelles.
Ah bon? Que tu vas faire à Bruxelles?
Ma fille fait à côté.
Du Canasson?
Ouais.
Très bien.
Bon, lui, c'est un international là-bas.
Lui, c'est des résultats. Merci Thomas, bonne soirée.
Salut Thomas.
Les tirs au but d'abord. On va parler de l'équipe de France. Où en est-on de la séance entre Arsenal et le Sporting en Europa League?
1-1 pour le Sporting. C'est Saint-Just, le défenseur néerlandais, qui a réussi pour le Sporting. Et Martin Ødegaard, le capitaine d'Arsenal, a égalisé. Deuxième tireur portugais à venir. Et il y a quand même une ambiance de fou mise par les supporters portugais. Ils sont un paquet de venir. Ouf. Et deux sur deux. Ricardo Esgaio.
Mettre des mines. Hein.
Ouais. D'ailleurs, qui est un joueur qui est très critiqué au pays. Nicolas Villas s'est moqué de moi parce que j'avais acheté son maillot, et ben il a marqué son deuxième tir au but.
En tout cas, ça, les tirs au but, les trois premiers sont remarquablement tirés.
Le premier était magnifique, hein.
Lucarne, ouais,
exactement. Ouais, et puis tout est fort, bien placé, et même si c'est un peu moins bien placé comme le dernier, c'est très fort, très pour l'instant très compliqué qu'il le met, pour les gardiens.
Bukayo Saka.
On va suivre celui-là.
Il est rentré en cours de match pour donner un peu de peps à l'équipe. Il n'a pas réussi grand chose, Bukayo Saka, mais c'est évidemment un joueur qui réussit une saison exceptionnelle. Peut-être pour égaliser donc à deux partout dans cette séance de tir au but après le match nul, un but partout. Saka face à Adan, contre-pied, magnifique, à ras de terre. Okay. Deux partout, deux sur deux pour les deux équipes.
L'équipe de France, donc, si vous avez raté ça aujourd'hui, il y a des nouveaux. Donc, Kefren Thuram, qu'on a entendu tout à l'heure, est appelé. Wesley Fofana, il y a deux matchs là, donc, dans les jours qui viennent pour entamer les qualifs du prochain Euro 2024. Match contre les Pays-Bas et l'Irlande. Et donc, Brice Samba, mon cher Lionel, est là. Il arrive. Alors, petite nouveauté par ailleurs, Kamavinga est désormais annoncé dans les défenseurs. Voilà, donc Deschamps le veut comme latéral.
Ça m'embête un peu, ça.
Voilà. Ben moi, c'est un point.
J'avais dit ça l'autre jour à Fred Hermel, il me dit n'importe quoi.
Non seulement il est pas annoncé comme défenseur. Deschamps a justifié en conférence de presse très précisément que il le voulait comme arrière latéral gauche au moins pour ce remplacement, mais on sait qu'il l'a déjà fait jouer comme ça.
Bah oui.
Et qu'il a expliqué.
Dur, rappelez-vous, contre la Tunisie, au début, il était perdant.
C'est un des points que je voulais noter dans cette liste, moi. Des deux côtés. Pavard, il le reprend, il le dit même comme arrière-droit. Alors que Pavard, justement, il est bon, et Polo en a parlé récemment, il est bon maintenant quand on le remet dans l'axe.
Axial droit.
Donc, si tu veux, Deschamps, il a toujours des trucs pas possibles par rapport au positionnement de ses joueurs. On se souvient avec Sissoko à l'époque, avec Matuidi, avec Pacha.
Parce que quand
t'es deux latéraux, t'as quand même tes deux latéraux.
Et tu te dis, mais on n'a pas de latéraux en France.
Kamavinga, c'est un milieu de terrain. Tu peux le faire comme tu veux.
Après, t'as
les arrières gauches, effectivement, qui vont se dire, bah, alors, si en plus on prend un milieu pour jouer arrière gauche, ça va être compliqué d'aller en équipe de France. Mais surtout, le fait de ne pas faire jouer les joueurs à leur place, moi, ça me laisse, sans voix. Je comprends pas ce truc de Deschamps.
Bon, après, rappelez-vous de l'époque Jacquet, on avait aussi Thuram, par exemple, père
Ouais, mais il savait le faire en championnat, en équipe,
ouais, mais en plus,
dans l'équipe de club, ouais. Il le faisait. Tutu était capable de jouer aussi bien latéral droit que axial droit, que même à gauche.
Mais je veux dire, ça date pas de Deschamps. Parfois en équipe de France, t'as les mecs qui jouent pas leur poste.
Non, mais
ouais, mais là, Camavinga, entre l'expérience de Camavinga au poste de latéral gauche par rapport à Tutu qui avait fait tous les postes. De la défense, avec son club.
Manu Petit aussi a joué à plein de postes différents, par exemple en équipe de France.
Bon. C'est vrai, lui il a joué plus milieu et arrière gauche. Mais là, c'est surtout le fait que tu as potentiellement des joueurs pour le faire. Il a même attesté une époque, on avait parlé de Ferland Mendy, tu sais, à l'époque, clairement il ne le voulait pas. Et il préfère déplacer des joueurs et les changer de poste. Si c'est ponctuel, t'as raison,
que tu as
raison,
il parle de polyvalence. Couteau suisse, voilà, il le dit, voilà, il est capable, il est multiservice, il n'y a pas de souci.
Ouais. Multiservice.
Prends déjà. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur pour le poste de nos latéraux, quoi.
Alors, hier soir, on a débattu ensemble du capitanat de l'équipe de France. Et Deschamps n'a pas tranché. Il a dit aujourd'hui, je sais pas encore. Le choix sera fait avant le match des Pays-Bas. Tout à l'heure, Christophe Dugarry a milité pour Kylian Mbappé, comme nous hier soir. Tu crois qu'il ment, Deschamps?
Oui.
Ah, tu penses qu'il sait ce qu'il veut, mais
qu'il a proprement dit
aux joueurs, donc il a rien dit aujourd'hui, c'est ça que tu...
voilà. D'accord. Bien sûr qu'il le sait déjà. C'est pas un truc qu'il va faire à pile ou face.
Pénalty décisif, la tir au but décisif entre Arsenal et le Sporting.
Et c'est pas les joueurs qui vont le décider.
Et le leader de Première Ligue va peut-être sortir de cette Ligue Europa. Nuno Santos, qui a marqué un but exceptionnel le week-end dernier, un coup du foulard en pleine lucarne, va peut-être s'offrir une semaine exceptionnelle. S'il marque, le Sporting va passer. Il marque. Le Sporting Portugal élimine Arsenal. 2-2 à Lisbonne, 1-1 à l'Emirates Stadium ce soir. Et 5-5 au tir au but, alors que Gabriel Martinelli avait tiré très mal son tir au but.
Arrêté.
Paradan, ouais, exactement, mais c'était pas très bien tiré, Lionel.
Ouais, c'est vrai, mais bon, mais il arrête.
Gros match d'Adan, effectivement, qui vit une saison un petit peu dans tous les sens.
Incroyable, ça, c'est
mais bon. Le Sporting Portugal, vraiment dans une ambiance magnifique à Arsenal, à Londres, beaucoup de supporters portugais. Donc le Sporting en quart de finale de Ligue Europa, Arsenal éliminé.
En tout cas, les 5 tirs au but du Sporting, pareil, à montrer là, parce que
ils ont pas trompé,
ça s'est préparé. C'est technique, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Et le dernier, effectivement, qui a mis ce but en coup du foulard ce week-end, il n'a pas tremblé, il l'a mis en pleine lunette, ouvert le petit filet en tout cas.
Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, tu vois, culturellement, parce que nous, avec la JA, tous les matchs qu'on faisait, soit quand on jouait en Coupe de France, soit quand on jouait en Coupe d'Europe, toute la semaine, on tirait après chaque...
On va dire ça à Domenech et Deschamps.
Ouais.
Et on a perdu 2 finales de Coupe du Monde parce qu'on avait des sélectionneurs qui disaient que ça ne servait à rien.
J'arrive pas.
Ça me rend encore fou, ça.
J'arrive pas à comprendre ça.
Parce que Giroud, époque Lobanovski.
Tous les jours de la semaine, on finissait la séance avec des tirs au but.
Lobanovski, Kiev, qui était un précurseur, et comme Giroud est quelqu'un d'intelligent et de cultivé et qui savait que ça se faisait, notamment là-bas, à Kiev, il l'a imaginé, il l'a reproduit à Auxerre. Il a bien fait.
Allez, dans un instant, on se retrouve avec le reste de l'actu du jour.
De l'after, on a réussi à mettre des tirs au but quand même au gardien de la GIA. Hein.
Ah bah surtout, Simone Rovera voulait faire une panenka.
Ah, ça se fait pas.
À Lionel Charbonnier, Lionel s'est vexé.
Attends,
il lui a dit, oh, tu me manques de respect.
Vous m'avez marqué 2, j'en arrête 3.
Je sais pas, moi, je te l'ai mis en tout cas.
Ah, tu me l'as mis?
Ah oui, je l'ai mis le dernier.
Ah oui, j'étais obligé de te laisser marquer.
C'est Jérôme Thomas aussi, t'en as mis. Hein.
Jérôme Thomas.
Et bah, c'est les seuls, hein. Vous êtes les deux. Hein.
Je sais pas, mais on a gagné. Alors, ça veut dire que
c'est parce que je voulais encore venir à l'after.
Ah, d'accord.
Allez, à tout de suite. Encore un petit quart d'heure d'after ensemble.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
23h49, Lionel Charbonnier, là, Florent Gautreau, il a pas mal d'actu par ailleurs, outre l'équipe de France. Les gars, une grosse actu foot algérien. On en a parlé cette semaine. Il y a eu des annonces en cascade de joueurs franco-algériens qui ont fait le choix de leur autre pays, en quelque sorte. Alors, on vous avait expliqué Koussem Aouar, l'avait annoncé il y a quelques temps. Fares Chaibi, joueur de Toulouse. Jaouen Adjam, joueur de Nantes. On a aussi Boinani de Nice qui pourrait être appelé. Et puis il y en a un petit nouveau encore aujourd'hui, c'est Riyad Ait Nouri, l'ancien Angevin qui aujourd'hui est à Wolverhampton, qui a donné son accord. Donc les Algériens voilà travaillent pour attirer les binationaux. Et aujourd'hui, Oussem Aouar a donné une interview sur le site de la Fédération algérienne de foot pour expliquer son choix. Donc je cite, il dit: j'ai une grande partie de moi qui est français, je suis né, j'ai grandi ici, mais j'ai aussi une grande partie qui est algérienne en raison de mes origines et de la façon dont j'ai été éduqué à la maison. Mes liens avec l'Algérie sont très forts, dit Oussem Aouar, qui rajoute: pour être honnête, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je ne me voyais pas faire la démarche moi-même. Le coach et le président m'ont tendu la main. J'ai vu ça comme un signe du destin, dit Oussem Aouar. J'ai sauté dessus, car c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Et alors, il y a quand même un truc un peu. Il dit: j'ai vu que j'avais une deuxième chance. Alors, je ne sais pas si la première chance, c'était l'équipe de France.
L'équipe de France.
Qui lui a passé, ou en gros, il n'a pas été pris, hein, faut être clair.
Je pense.
Et il a cette petite phrase qui peut peut-être faire un peu polémique. Il dit: en rejoignant l'équipe de France, il avait fait un match amical, uniquement un, donc qui lui permet maintenant d'aller en Algérie. En rejoignant l'équipe de France, j'ai senti un regret que je n'avais pas fait le choix qui me convenait. Alors, est-ce qu'il dit ça parce que on l'a appelé qu'une fois et qu'il a pas, tu vois, il a pas, Deschamps a pas compté sur lui, ou est-ce qu'il dit ça parce qu'effectivement, il quand il y était, il s'est dit c'est pas ma place. Bon, je sais pas.
Ouais, difficile. On peut pas se mettre à sa place, mais en tout cas, il va falloir quand même qu'il soit très fort, parce que aussi si tous ces joueurs là aujourd'hui sont attirés par leur équipe, c'est parce que leur équipe nationale devient de plus en plus performante et que de très bons joueurs ont envie de la rejoindre. Et c'est tout à leur honneur. Mais c'est aussi grâce au bon travail interne de la fédé algérienne, marocaine, toutes ces fédérations-là qui travaillent très très bien maintenant.
Exactement. Alors bon, Oussem Aouar, attention, encore faut-il qu'il ait sa place, hein, parce qu'il joue
Il va falloir qu'il soit fort.
L'équipe d'Algérie, c'est du haut niveau. Là, on suppose qu'il va être appelé, parce que s'il donne une interview à la fédé algérienne, enfin sur le site et tout, ce serait étonnant que demain il soit pas appelé quand même, parce que ça n'arriverait à rien.
Non, mais appeler, c'est une chose, Gilbert.
Mais
il va falloir qu'il soit performant.
Ben oui, mais pour l'instant, il n'a pas sa place.
Ouais, donc bien sûr.
T'imagines
en Algérie, il va jouer titulaire, il n'est pas performant, ça va être compliqué pour lui à gérer. Il va falloir qu'il soit fort. Hein.
Exactement. À suivre. Tiens, à propos de sélection, je vous signale qu'il y a aussi une sélection des espoirs avec des petits nouveaux chez les espoirs. Le Penant de Lyon et Barcola ont été appelés par
Barcola, mon chouchou,
par Ripoll, ainsi qu'un jeune joueur de Lecce qui s'appelle Valentin Jandré.
Ouais. Voilà. Il y a aussi des bons gardiens, hein, puisque Mélier qui est toujours en espoir, hein, et Lafond, je pense.
Lafond.
Ouais.
Quelques infos PSG. Pour vous dire que le PSG a envoyé un mail à quelques abonnés fidèles en proposant une sorte d'enquête en ligne pour recueillir les avis concernant le stade. Alors, parmi les questions de cette consultation, il y avait, bon, en gros, est-ce que vous voulez, un, rester au Parc des Princes, deux, aller au Stade de France, trois, aller dans un stade de l'Ouest parisien pas très loin de Paris, et quatre, aller dans un stade de l'Ouest parisien plus loin, genre à 20 km de Paris, tout ça avec des produits de billetterie les plus chers au Parc des Princes proposés. Donc, il y a quand même une consultation interne comme ça qui se fait au club pour savoir... Je trouve ça plutôt positif de consulter les supporters.
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui veuillent quitter le parc.
Oui, voilà. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si on aura le résultat de cette étude menée par le club auprès de ses...
Sur ce sujet-là, il y a quand même des choix qui sont acceptables ou pas, je pense, pour un supporter du PSG. Car rester au parc, évidemment, c'est ce que préféreraient les vrais supporters.
Ah oui, je pense que là, c'est à 90%, voilà, ils vont tous dire rester au parc.
Après, aller au Stade de France, pour moi... Ce serait terrible, parce que moi j'aime pas ce stade. Alors en plus, pour un club, c'est terrible. Après, en revanche, d'accord, créer un projet, pourquoi pas, dans l'Ouest parisien, puisque le PSG a toujours eu des ramifications côté Ouest avec Saint-Germain-en-Laye. Le centre d'entraînement est maintenant à Poissy dans le 78. Donc, que ce soit, j'ai entendu parler du dossier que je connais bien avec l'hippodrome de Saint-Cloud ou ailleurs dans l'Ouest. Pourquoi pas, après, si t'as un vrai projet, que tu fais un beau nouveau stade, why not? Mais après, le parc, Paris, cette chance d'avoir un stade en ville,
c'est l'histoire quand même,
dans
c'est...
la ville, en ville, et ce stade-là, ça va être très compliqué d'avoir d'autres propositions. de la part des fans du PSG.
Et puis Sergio Ramos s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Ah. Bon, on connaît pas la gravité de la blessure, mais Kimpembe est
Coupe d'Europe.
Kimpembe est déjà blessé. Alors ils vont à Rennes. Et puis Messi absent de l'entraînement. Bon, pas d'explication, mais voilà les infos.
Cette info-là, elle est peut-être plus intéressante. Enfin bon, Ramos.
Messi plutôt que Sergio Ramos.
Messi, il y a pas de raison. T'as un bulletin, t'as des gens qui peuvent se blesser à l'entraînement, voire à domicile.
Ou alors il y a une raison qu'on ne connaît pas.
Il a joué au Scrap comme Lionel Letizy
en ramassant une lettre,
il se fait mal au dos.
Mais Ramos, je le trouvais plutôt performant actuellement.
Oui, une fois qu'on l'a mis dans l'axe, ça sa vraie place, c'est sûr, c'est mieux.
Exactement.
Ah, puis une histoire marseillaise que je voulais vous raconter qui est assez drôle. Aujourd'hui, Lilian Thuram était au centre d'entraînement. Et vous savez qu'à Marseille, on scrute tout ce qui se passe. Il y a toujours des supporters devant. Et là, il voit arriver Lilian Thuram. Donc là, je dis, s'il est là, c'est peut-être pour son fils. Pour que bientôt Marcus vienne. En fait, non, il venait voir Tudor, c'est son pote, ils ont déjeuné ensemble. Donc, faux espoir à Marseille aujourd'hui.
Ah, c'est le réseau Juve.
Exactement, parce qu'ils se connaissent de la Juve, Lilian Thuram et Igor Tudor, et vraisemblablement, ils sont restés amis. Marseille, qui d'ailleurs, ça ne plaira pas à certains supporters, veut faire appel de la suspension de Balerdi. Deux matchs, et en fait, on estime à l'OM que le principe de sanction automatique n'est pas approprié pour des situations comme celle-là, la carton rouge automatique. Enfin, carton rouge parce que dernier défenseur, donc... Voilà, donc ceux qui ne veulent plus de Balerdi pourraient se le reprendre plus vite que prévu sur le terrain, puisque l'OM devrait faire appel. Et puis Gianni Infantino. Ah, ça c'est extraordinaire.
Aujourd'hui, il a fait quelque chose.
Les gars, quand on fait une élection par acclamation, très franchement, c'est la honte. Ok, il est seul candidat. Ben, au moins, quand t'es le seul candidat, fais une élection à bulletin secret. Ça permet au moins à quelques opposants de s'exprimer, de voter blanc, je sais pas. Élu par acclamation, Lionel. Ben, on est où, là?
Je sais pas,
Non, mais franchement.
Ça existe encore.
C'est le truc, ça se faisait dans les années 60.
Je savais pas que ça existait. Le
Parti communiste chinois, tu vois.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que l'impunité est telle à la FIFA que, justement, tu peux te permettre de faire ça sans rire. C'est-à-dire que les mecs font un truc.
Non, mais le pire, c'est que politiquement, il aurait été élu.
Oui. Non, mais si tu veux, par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui de la démocratie, dans toutes les institutions du monde, mais la FIFA, en fait, fait ce qu'elle veut. Elle gère comme elle veut, elle met qui elle veut, elle rince qui elle veut, et donc, allez, on y va à l'ancienne, comme un vieux politburo.
T'imagines que personne n'applaudisse, personne ne. Infantino. Il est quand même élu, mais il a pas ses applaudissements, ceux qui l'attendaient tant.
Infantino, c'est Brejnev.
Une catastrophe, voilà. Puis il a dit, je comprends pas pourquoi certains journalistes sont si méchants avec moi, dit Infantino. Bon, il est extraordinaire ce type. Il est là. Voilà pour la FIFA, on finit avec Survivor tout de suite.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Nous sommes encore 5, les 5 meilleurs, bien sûr, parmi les membres de l'After. Encore 253 qualifiés parmi les parieurs sur winamax.fr. On est au 6e tour, quand même, ça rigole pas. 3 d'entre nous jouent Lens, qui reçoit Angers, Jean-Louis Tour, Roland Courbis et moi-même. Je sens qu'on va se qualifier. Thibaut Giangrande joue Monaco, qui va à Ajaccio. Risqué. Et Maxime Latrubert joue Strasbourg, qui reçoit Auxerre.
Quel faillot.
Hein, il joue Strasbourg, qui reçoit Auxerre.
Ah, il est éliminé, lui.
Et Auxerre, ils sont terribles.
Moi, je pense que c'est du sur aussi. Réponse là.
Désolé, Gilbert, mais ça va être dur pour vous.
Je t'annonce un but d'Abine.
Oui, ça va être dur pour vous.
Merci Lionel, merci Florent.
Ciao à tous.
Et bonne nuit à tous. L'After revient demain soir avec le retour de la Ligue 1, bien sûr. Et Lyon-Nantes, bye bye.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.